Amen. On s'en va dans 1 Corinthiens 12. Je dois vous avouer, ce matin, là, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, qui va venir, qui viendra pas, parce que c'est ça. Je suis surpris. Il y a beaucoup de monde pour un dimanche de je peux le dire, pas tempête, là, mais de mauvais temps. Mais bienvenue tout le monde, bien content que tu sois là. On a des visiteurs. On a des visiteurs de Pont-Rouge, les Martins. Les visiteurs dans l'arrière, je connais vos prénoms, je connais pas votre nom de famille. Comment?
Nditia.
Oh, OK. vous essayez de m'en rappeler. Mais je rappelle, c'est... OK. Je me rappelle plus. Il y a une petite fille qui s'appelle... Blanche. La plus petite, c'est Oracle. Emmanuel.
Clarissa.
Puis...
Sina.
Bienvenue. Puis on a aussi, je t'ai pas demandé ton nom, qui vient de l'Alberta?
Chantal.
Ah! Donc Chantal aussi, qui est venue directement de l'Alberta pour venir nous voir. Oui, à pied. Amen. Que Seigneur vous bénisse. Puis, je t'ai-tu demandé, tu m'as-tu dit ton nom? L'ami de William, oui? Je pense pas, hein?
Non, ouais. C'est Gédéon.
Gédéon, bienvenue Gédéon.
Oui, c'est mon collègue de travail.
Ah, OK, collègue de travail. Je me demandais aussi de l'université, mais collègue de travail. Fait que si vous voulez encourager un certain reste, on a-tu le droit de le nommer?
Ben oui.
C'est eux autres qui font les meilleurs burgers.
Les meilleurs
burgers. Donc, si vous voulez aller encourager nos deux amis ici, allez chez AW sur le boulevard Amel. Amen. Bon, hey, assez de folie, là, matin. On va lire les 11 premiers versets. On a lu le chapitre au complet tantôt. J'aimerais qu'on relise les versets 1 à 11. On va tous les relire pendant le message, mais notre premier point va être avec ça, puis mon introduction aussi. Donc, 1 Corinthiens 12, on peut lire au verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi, je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. » Merci Seigneur que tu es le Dieu souverain, que tu es le Dieu bâtisseur, le Dieu rédempteur, toi qui prends des pécheurs comme nous, tout éparpillé, perdu, sans but. Et Seigneur, lorsque tu sauves quelqu'un, tu le places dans ton église. Il est partie de ton corps. Et Seigneur, nous sommes ton corps ici, tes enfants. Et enseigne-nous, Seigneur, sur ces vérités précieuses, importantes, qu'on considère ce matin. Oh, et Seigneur, on veut prier si quelqu'un ne te connaît pas, qui n'est pas encore sauvé par le sang de Christ, qui n'est pas né de nouveau par l'Esprit du Dieu vivant, qu'aujourd'hui soit le jour de son salut. Seigneur, convainc, on te prie, convainc, c'est toi, Seigneur, tu nous le dis, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement, ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils viennent à la connaissance du seul vrai Dieu. Seigneur, on te prie pour cela. On te prie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qu'on soit enseigné de toi et surtout qu'on réponde à ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Que ça ne tombe pas dans une oreille dure, mais dans une oreille docile. Seigneur, qu'on se soumette à ce que tu vas nous montrer pour ta gloire, pour ton œuvre, pour tes desseins. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, le message de ce matin est la suite de ce qu'on a vu la semaine passée, mais aborde le même sujet, puis vous savez, on regarde un peu toute la question de l'Église locale, mais même plus précisément, C'est quoi être membre d'une église? Qu'est-ce que ça veut dire, membre? La semaine passée, on l'a vu sous un angle dans Romains 12, où est-ce qu'on a vu, et je vous relis juste là, Romains 12, 4 et 5, ça dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » On a vu, à part ça, la semaine passée, si vous vous rappelez, l'expression de la plénitude de notre vie en Jésus-Christ à travers une église locale comme la nôtre, la plénitude que vraiment on peut, tu sais, ça nous dit dans Éphésiens au chapitre 1 que Christ, nous sommes son corps, qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On a mis l'accent là-dessus la semaine passée. Et cette semaine, avec 1 Corinthiens 12, on va voir la dynamique. Donc, non seulement l'aspect plénitude, mais aujourd'hui, puis l'expression la semaine passée de cette plénitude, mais cette semaine, la dynamique de cette expression. Comment ça se passe comme ça? Et ça va avec le thème du mois de mars qui est « Christ, notre sagesse ». Parce qu'être membre d'une église locale, ça renferme deux aspects fondamentaux. Dans Romains 12, on a vu... Ça renferme la notion d'unité spirituelle qui s'exprime par le caractère complet et parfait du Seigneur. Vous rappelez-vous, je vous ai dit, quand quelqu'un vient dans une église comme la nôtre, il devrait avoir un portrait complet de qui est Dieu, à quoi ça ressemble l'expression du Dieu vivant à travers les différentes personnes, les différents dons qu'il a mis dans son église. Ça s'exprime comme ça. Le Dieu trinitaire est révélé à travers... le corps de Christ. Aujourd'hui, dans Corinthiens, donc l'unité spirituelle, la semaine passée, Romains 12. Aujourd'hui, la diversité spirituelle dans 1 Corinthiens 12. Et ça, je dirais, c'est l'expression de la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez ce que ça dit dans Éphésiens 3, 10. C'est pourquoi les dominations les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment varié de Dieu. Dieu révèle quelque chose au sujet de lui-même. Christ, la tête de l'Église, révèle qui il est à travers son corps. Et je dirais que tout ce qu'on considère depuis la semaine passée et qu'on considère encore aujourd'hui, c'est vraiment à point. C'est vraiment pour le moment présent. Comme le Seigneur a dirigé et je crois initié par son esprit, nous a dirigé à considérer ces choses. Dans la situation actuelle, où est-ce que, en tant qu'Église, on peut expérimenter au premier plan, d'une façon concrète et puissante, l'unité dans la diversité. Et je crois que c'est précisément pour ça qu'il y a eu aussi de multiples attaques de la chair et de Satan pour s'attaquer à ça, parce que Dieu fait quelque chose, donc on a attiré aussi l'attention de l'ennemi. Donc Dieu fait vraiment un œuvre, et là je me rends compte, je ne sais pas pour vous, mais moi je m'aperçois à quel point on a besoin de sagesse. On ne sait pas comment tout dealer avec tout ça. Et heureusement que Christ est notre sagesse. Heureusement que même, c'est lui qui est la sagesse de l'Église locale. Ce n'est pas juste quelque chose de loin, de théorique, d'abstrait que Christ est notre sagesse. Ici, maintenant, dans nos rapports les uns les autres, dans une Église locale comme la nôtre, Christ est la sagesse de cette Église. C'est lui qui nous donne toute cette dynamique. C'est lui qui orchestre cette dynamique. Et c'est sa personne, son œuvre, sa parole qui jette sa lumière sur ce qu'on est en train de vivre et comment on a besoin de lui en ce moment pour vivre à sa façon les choses que nous vivons, à sa gloire et à son honneur. Avant de développer les points du message, je veux juste vous donner une série de questions que je pose maintenant puis sur lesquelles je vais revenir à la fin du message. Par rapport à cette question-là, justement, l'unité dans la diversité. Jusqu'où tolérons-nous les différences entre chrétiens, milieux chrétiens, dans une église comme la nôtre? Quels critères bibliques pour trancher cette question importante? Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'église? D'où provient notre identité propre en tant qu'église locale? Et comment ça s'agence avec celle des autres? Ou aussi, pour prendre un passage biblique que vous connaissez, là, fait partie de la prière sacerdotale de Christ dans Jean 17, qu'est-ce que ça signifie que Christ a dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire, pardon, que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres ici? Un beau dimanche matin. Mon désir, c'est de répondre à ça avec les trois dynamiques qu'on va voir, les trois dynamiques de Christ, la sagesse de l'Église locale. D'abord, on a lu dans les versets 1 à 11 ce que j'ai appelé la dynamique spirituelle. La première dynamique, c'est la dynamique spirituelle. Puis là, je vais être droit au but et je vais exposer l'éléphant dans la pièce par rapport à ce qu'on a lu dans les versets 8 à 10, où est-ce que certains voient des dons là-dedans comme étant permanents, toujours en vigueur, et certains d'autres, comme nous, croient qu'ils sont temporaires, qu'ils étaient pour un temps. Fait que là, c'est le temps du malaise. Soyez pas mal à l'aise. Ça l'exprime la différence qu'on peut avoir, mais je veux vous expliquer une couple de choses à ce niveau-là. On appelle théologiquement, nous autres ici, notre croyance que nous sommes cessationnistes. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a eu des dons qui avaient une valeur temporaire, des dons de signes qui étaient donnés pour un temps. Et comme ça dit, par exemple, ça dit 1 Corinthiens 14, 22, par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, des dons de signes qui confirme la parole, c'est des manières objectives, hors de tout doute, de confirmer la parole. Par exemple, l'homme à la porte Labelle dans Acte 3, qui a bondi comme ça, et là tout le monde savait, oh, attends un peu là, c'est pas des charlatans ces gars-là, c'est qui ces gens-là? Ça l'authentifiait. Et d'ailleurs, Hébreux chapitre 2 va dans ce sens-là, ça dit, chapitre 2, versets 3 et 4, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » C'est un premier élément aussi. Il faut comprendre que, savez-vous que les dons surnaturels ne sont pas exclusifs au Nouveau Testament. On les retrouve dans la parole, par exemple dans l'Exode, par exemple avec Élie et Élisée. Et ce qu'on voit en commun quand on regarde tout ça, ces dons-là temporaires, ces dons de signes pour confirmer sont reliés et viennent avant un temps de jugement. En Égypte, il y a eu tous les miracles et tout ça. Pourquoi? Il y avait le jugement qui tombait sur l'Égypte. Avec Élie puis Élisée, c'est le jugement de la Syrie, la déportation assyrienne. La majorité des tribus, 10 tribus sur 12, ont été emportées. C'est pour ça que Dieu avait envoyé ses prophètes. Et qu'il y avait ces signes pour... Puis même chose avec Jésus et les apôtres, parce qu'en 70 après Jésus-Christ, le jugement est tombé. Voyez-vous qu'il y a une constante qui est toujours là. Et en passant aussi, les dons de miracles et de signes ont cessé après les épisodes de Moïse. Ont cessé après les épisodes d'Élie et Élisée. Et c'est pour ça aussi qu'on croit qu'ils ont cessé. Après un temps, ça nous dit d'ailleurs la façon que c'est formulé dans 1 Corinthiens 13. Les langues cesseront, le temps de verbe, ce qui est employé, c'est va cesser de soi-même. C'est ce qui est arrivé avec Moïse, c'est ce qui est arrivé avec Élie et Élisée. OK? Maintenant, les dons de signes aussi du Nouveau Testament. Quand on regarde, vous savez, la parole de Dieu n'a pas tout écrit d'un coup. 1 Corinthiens, c'est le plus vieux, ça a été écrit plus proche des événements, des livres des Actes et tout ça, puis, OK, de la venue de Jésus. Romains est écrit un peu plus tard, puis 1 Pierre a été écrit un peu plus tard. Pourquoi je parle de ces trois-là? Parce que c'est les trois passages qui nous parlent des dons. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, c'est le passage le plus long, ça parle beaucoup des dons, parce que c'était très actuel, c'est encore très là. Romains, un peu plus tard, il en parle moins. Pourquoi? Parce que ça diminuait, là, comprenez-vous? Puis dans 1 Pierre, qui est écrit encore plus tard, il y a juste deux petits versets, puis c'est vraiment par rapport aux deux catégories. Donc, voyez-vous, il y a on voit cette descension, pas ascension, mais cette déclinaison, pas déclinaison, mais ce déclin. OK? Une autre chose qui est importante à comprendre, les langues bibliques selon Actes 2:8, ça dit « Comment entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? » Puis, ça dit « dans notre langue maternelle ». Donc, c'est des langues compréhensibles. Et ça, c'est à distinguer de la glossolalie, du charabian, qui n'est pas pareil, qui est une pratique qui est vieille, qui était là même aussi du temps biblique, mais c'est pas pareil. Parler la glossolalie, dire des choses incompréhensibles, versus parler une langue que les gens ne comprennent pas et qui a besoin d'être interprétée. Et d'ailleurs, si quelqu'un parle en langue, ça devrait toujours être interprété, avec ce qu'on voit là, dans 1 Corinthiens 12 à 14. Okay? Et finalement, ça nous dit, au verset 10, ça dit que la diversité des langues, l'interprétation des langues, c'est dans ce sens-là, justement, qu'il faut... Faut voir, il y a un ordre là-dedans. Si quelqu'un parlait, ça devait être interprété pour que les gens soient édifiés. On va revenir là-dessus sur le concept d'édification, c'est très important. Et finalement, juste un point. Prendre 1 Corinthiens 13:1. Quand même, je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Prendre ça comme un texte normatif pour dire que on parle les langues des anges. C'est de la glace très mince sur laquelle se tenir, parce que ce n'est pas normatif, c'est de l'hyperbole. T'sais, connaissez-vous quelqu'un qui parle toutes les langues des hommes? Fait que ce qu'il dit, c'est pas « Ah, oh, je parle toutes les langues des hommes », c'est « Quand ben même que ça serait ça, puis aussi celle des anges, si j'ai pas l'amour, je suis rien ». Oui, c'est à titre comparatif, ok? Bon. Puis, je pourrais rajouter, puis ça, mais l'idée, pourquoi j'amène ça? Premièrement, je veux juste amener un point. Faites attention aux caricatures, aux exagérations, qui souvent sont une forme d'attaque sur le point opposé à celui qu'on croit. Et souvent, ça, c'est pas selon la vérité, c'est déformé, c'est une forme de mensonge, une forme de tromperie. Puis ça montre qu'on n'a pas vraiment écouté l'autre. Ça montre qu'on n'est pas vraiment ouvert sur l'autre. Par exemple, deux classiques, les baptistes ne croient pas aux miracles, ils ne croient pas au surnaturel, les pentecôtistes, c'est toute une gang de fous. OK? Les deux, c'est faux, OK? Bon, il y a des fous partout, puis il y a du monde qui croit pas au surnaturel partout, OK? Mais, comprenez-vous, c'est de l'exagération, c'est caricatural, OK? Puis souvent, ça montre juste essayer, c'est une très mauvaise technique de discours, d'ailleurs, quand tu pars de même, tu sais, ça montre pas que tu essaies de comprendre l'autre. Ça montre que tu veux juste le discréditer. On voit ça beaucoup dans les médias et médias sociaux. Et c'est intellectuellement, c'est extrêmement pauvre. Je veux dire, c'est parce que t'as rien à dire quand tu dis ça. C'est des techniques de quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit, puis qui sait pas ce qu'il croit, puis il fait juste le proclamer haut et fort. Bon. Maintenant, j'ai pas mal pilé sur les orteils de certains ici, puis mon but, sérieusement, là, c'est pas pour offenser ou rien. C'est ce qu'on croit. C'est ici... notre conviction, comment on interprète la parole. Puis, justement, certains peuvent dire, « Ouais, mais vous ne croyez pas vraiment à 1 Corinthiens 12 à 14? » Non, on y croit vraiment et littéralement, mais on ne l'interprète pas de la même manière. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, ça dit, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. » Divise droitement la parole de Dieu. Un point là-dessus, et ça, vous allez voir, c'est bon pour tout le monde. Connaissez-vous, dans la réforme, il y avait sola gratia, sola fides et sola scriptura. Sola scriptura, c'est pas comme solo scriptura. Solo scriptura, c'est je suis seul avec ma Bible puis je l'interprète comme bon me semble. Sola scriptura, c'est que la Bible est la seule autorité pour ma foi et ma pratique. Amen. Et là où je fais une différence, c'est que quelqu'un peut être très sincère, mais la sincérité n'est pas un critère de juste interprétation des paroles. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et voici, bon, j'ai pilé, je vais être direct, là, j'ai pilé ces orteils des pentecôtistes en masse, mais avec les baptistes, souvent, on était très sincères, et solo scriptura, avec l'Évangile, on est sauvé avec l'Évangile, tout ça. Mais quand vient le temps de la sanctification, puis la deuxième moitié de l'Évangile, hey, let's go, on essaye fort, puis le mouvement pentecôtiste a cherché à avoir une expérience, le mouvement Baptiste a cherché à faire à la place du Seigneur, puis, OK, comprenez-vous? Puis, le mouvement réformé a eu pas mal les pieds pris dans le béton du sola scriptura, que ça en est devenu leur identité. Tout le monde a passé, d'une façon ou de l'autre, à côté de celui qui est notre identité, à côté de celui qui est notre unité, celui. Et c'est ça le problème fondamental, puis là, ça m'amène au point le plus important. Là, j'ai fini d'être offensé, puis je voulais pas être offensé, je voulais juste être clair, OK? C'était pas l'idée de... Mais, tu sais, regardez le verset 7. C'est vraiment le point principal que je veux amener avec cette dynamique spirituelle. Verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et là, c'est bien exprimé dans ce verset-là, mais ça revient aussi sous différentes formes dans l'ensemble du chapitre et du passage sur les dons spirituels, et la centralité aussi du chapitre 13, qui est la voie par excellence, qui est l'amour. Je veux souligner que toute la dynamique spirituelle des dons ne doit pas se faire de façon égocentrique à chercher « qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être quelqu'un qui paraît bien? » Ça, c'est toutes des tendances humaines. En passant, c'est « convoitise des yeux, convoitise la chair, l'orgueil de la vie. » Ok? C'est tout humain, c'est toute la chair. C'est pas ça l'idée des dons, c'est que l'Esprit est donné à chacun pour l'utilité commune. C'est pas pour moi-même, c'est pour l'édification des autres. Et d'ailleurs, je vais vous lire là-dessus un passage qui est bien important, ceux qui prennent des notes, à mettre en parallèle. Parce que on s'entend tous, on veut la Bible comme étant notre fondation, n'est-ce pas? La parole de Dieu. Et là-dessus, ça dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est le fondement de la parole de Dieu. OK? Ceux qui l'enseignent, qui l'ont enseigné, qui l'enseignent. Et ça, c'est quoi le but de ça? Ça, c'est, quand je parlais tantôt, c'est les pieux qui nous ancrent solidement en Christ. C'est ce que Dieu a donné. Mais le but de ça, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous savez, ça nous dit dans Romains que nul ne vit pour soi-même et nul même ne meurt pour soi-même. Soit donc que nous mourions, soit donc que nous vivions, nous sommes au Seigneur. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et pour ça, je disais qu'on regarde n'importe quel milieu chrétien. Tout milieu chrétien est tombé à sa façon, de différentes façons, mais est tombé dans le piège de faire des dons un moyen en tant que une fin en tant que telle. C'est centré sur nous. Comment le don va m'aider? Comment Dieu m'a... OK, puis c'est centré sur soi, alors que le Saint-Esprit a donné les dons pour son corps, pour l'édification, pour les autres. On a été égocentrique alors que les dons de grâce sont christocentriques. C'est pour son corps. Comprenez-vous? C'est une grave erreur et tout le monde est tombé dedans de différentes façons. Pointons pas du doigt, on est tous coupables. Autrement dit, les dons de la grâce sont christocentriques, c'est l'équipement pour l'édification de son corps ou pour prendre avec l'œuvre de Christ, comme Christ est venu un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Christ est venu, il a souffert pour le bien et le péché des autres. Quand Dieu nous équipe avec les différents dons qu'il donne dans son Église, c'est pour qu'on soit équipé pour nous autres aussi à notre tour, souffrir pour le bien et le péché des autres. C'est pas pour flasher puis bien paraître, c'est pour être disposé face aux autres. Parce que l'édification, ça veut dire aussi, on n'est pas pareil, on peut se heurter, on peut des fois pas se comprendre. Mais Dieu nous a doués pour qu'on soit capable, de façon biblique et par sa puissance, par mon esprit, dit l'Éternel, être capable de bâtir cette œuvre. Voyez-vous comment ça n'a pas rapport avec nous? C'est pour lui. La seule rapport que c'est avec nous autres, c'est pour pas qu'on soit dans le chemin, c'est pour pas qu'on soit une nuisance. Parce que par nous, on en est une. Donc Dieu a donné ses dons pour qu'on puisse s'édifier. La vérité dans l'amour. Puis les dons ont toujours rapport avec la vérité. C'est pour communiquer la vérité, c'est selon la vérité, et c'est par l'amour de Dieu sacrificiel, justement, qui accepte de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ceux qui étaient là samedi passé pour l'activité de communion fraternelle, vous vous rappelez qu'on avait vu ensemble Ésaïe 50, verset 4. Quel beau verset! C'est un verset messianique ici, quand ça dit « L'Éternel m'a donné une langue exercée », ça parle du Messie, ça parle de... du ministère de Jésus, sa mission messianique. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. N'est-ce pas merveilleux qu'on a ici, puis ça, si vous prenez des notes, vous pouvez faire un parallèle avec 1 Pierre chapitre 4, verset 11, parce que c'est les deux grandes catégories, donc de parole et de service. Il y en a qui ont comme ça une langue exercée qui par le don que Dieu leur a donné, ils soutiennent ceux qui sont abattus par la parole. Voyez-vous? Et ça, c'est la mission de Christ. Dieu les a équipés pour faire cet aspect de la mission de Christ. D'autres, c'est pas des grands parleurs, c'est plus des gens qui vont faire, mais ils ont une oreille. Puis ils écoutent comme un disciple, ils écoutent comme quelqu'un qui est prêt à servir, qui est prêt à faire, peu importe ce qu'il est appelé à faire. Des fois, juste écouter avec compassion, pleurer avec ceux qui pleurent. Des fois, écoutez, puis Seigneur, bon, ok, je te demande juste de faire cette chose-là, pratico-prêt. Comprenez-vous? Ça, c'est ce que Dieu fait dans son corps. C'est ça la dynamique spirituelle. Et c'est ça tout le concept du verset 7, que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, ça mène à la deuxième dynamique. Non seulement cette dynamique spirituelle, c'était mon plus long point, mais il y a aussi la dynamique corporelle. Mon plus long point, le moins de versets. Là, on va couvrir plus de versets, mais plus rapidement. Regardez à partir du verset... Bon, on va commencer au verset 12. C'est là qu'on est rendu de toute façon. 1 Corinthiens 12, 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre... ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Ici, c'est un énoncé clair et puissant de toute cette dynamique spirituelle, corporelle, pardon. C'est-à-dire, comme un corps, il y a de l'unité dans la diversité. Il y a un corps, mais il y a plein de choses dans le corps, plein de membres. Okay? Et là, le reste va développer ça. Regardez verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un même esprit. Ça, c'est un verset clair sur le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience unique qui arrive au moment du salut. C'est lorsqu'on est placé en Christ, plongé en Christ, mis dans son corps, OK? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une des nombreuses choses qui arrivent. Vous savez, quand on est sauvé, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais il s'en passe des affaires. C'est toute une transaction céleste qui a tellement d'implications. Mais on est baptisé du Saint-Esprit, placé dans le corps de Christ, immergé. Et donc, ça nous parle du corps de Christ en général, universel, mais le corps local est une représentation à petite échelle de cette grande entité qu'est l'Église, le corps de Christ. Et donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'un enseignement général, l'Église en général, puis il va au particulier pour faire la base de l'unité dans l'Église locale. OK, donc pas un enseignement général, voici, sur le corps de Christ, l'Église, mais l'application est locale. Et c'est ça qu'on voit à partir du verset 14. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. D'abord, avant de lire le verset 14, dans les versets 14 à 18, Paul développe, là, tu sais, sur cette base-là du verset 13, d'avoir été baptisé par le Saint-Esprit, il développe ce concept de la diversité dans l'unité. Pour expliquer que... écoutez bien, ça c'est important. C'est pas le fait d'être différent qui nous éloigne. Le fait d'être différent, ça devrait pas nous éloigner. Au contraire, ça devrait nous rapprocher parce que ça nous rend interdépendants. À cause qu'on est différents, on dépend les uns des autres. Je peux pas faire ce que l'autre a équipé, que Dieu a équipé pour faire. Comprenez-vous? C'est ça toute l'idée. Le fait qu'on est différent, ça nous rend interdépendants. Puis regardez comment tout ça, ça se passe. On en voit des dynamiques ici au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. OK? Le corps exécute plusieurs fonctions. OK? C'est une dynamique complexe et multiple. C'est pas juste une personne qui fait quelque chose, c'est plusieurs personnes qui font plusieurs choses qui sont toutes interconnectées. C'est d'une complexité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs membres. Verset 15 et 16. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Chaque fonction a son importance parce qu'elle contribue au bon fonctionnement de l'ensemble. Quand même que tu dis, si tu n'es pas content dans l'état dans lequel tu es, je veux dire, ça ne change pas que Dieu t'a placé, t'a fait comme tu es pour l'ensemble. C'est ta fonction, lorsque tu l'exerces, tu contribues à l'édification, au bon fonctionnement de l'ensemble. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ou l'audition? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Ça veut dire chaque membre doit exécuter sa fonction qui lui est propre. T'sais, on ne peut pas tout être des yeux, on ne peut pas tout être des oreilles, on ne peut pas tout être l'odorat ou l'ouïe. Chacun doit exercer sa fonction avec le but qui lui est propre pour que, justement, il y ait cette édification. OK, vous comprenez? Tout le monde est encore avec moi? Verset 18. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Ça, c'est important. C'est Dieu qui assigne chacune des fonctions selon sa sagesse, selon son plan bienveillant et pour édifier l'ensemble du corps. C'est Dieu qui décide. C'est important, ça. C'est pas nous qui dirigeons nos vies, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est souverain. Après ça, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26, Paul va développer le rôle mutuel, le rôle réciproque de chacun des membres les uns envers les autres. Chacun a son importance propre. Regardez, on va dire à partir du verset 19, « Si tout le corps était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. » On voit là-dedans que cette réciprocité, ce besoin mutuel les uns envers les autres n'est pas basé sur les apparences, sur l'importance qu'on peut donner à certains. C'est pas de ça que vient la valeur. C'est sur la fonction que Dieu a donnée à chacun. Et c'est vrai, certains, aux yeux des hommes, on peut dire « Ah, ça paraît moins honorable. » Mais pas aux yeux de Dieu. D'ailleurs, vous essayerez d'enlever une partie de votre corps et tout ça. Je faisais la joke la semaine passée avec l'appendice. J'ai pas étudié la question, mais tu sais, là, les évolutionnistes vont dire c'est un organe vestige, là. Ben, enlève-le, tu vois, il y a une couple d'affaires qui ne marcheront pas, là. OK? C'était pas la plus importante, tu sais, si t'enlèves le cœur, bon, là, ça risque de plus marcher trop, là. Il y a un ordre d'importance, tout ça, mais je veux dire, on a besoin de tout. Et là-dessus, j'ai retenu ce que ça dit dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ah, ça, c'était un des frères de David. Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Combien d'histoires, des fois, de personnes dont on n'a pas fait de cas, puis tout ça, puis on se rend compte plus tard, ou par la suite de l'histoire, comment Dieu les a utilisés de façon majestueuse, sans jamais qu'il y ait de tambour et trompette. Puis c'est bien correct de même. Pourquoi? Afin que la gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Et probablement que ce genre de personnes-là n'aimaient pas de toute façon les tambours et les trompettes, aimaient plus être à l'arrière-plan. Dieu les a faites de même, selon sa sagesse, ses plans et sa souveraineté. Puis en passant, sur regarder à l'apparence, Paul avait quelque chose à dire aux Corinthiens là-dessus, dans 2 Corinthiens 10, verset 7. Vous regardez à l'apparence? Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien à lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre édification, non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Il regardait à l'apparence, Paul n'était pas le super preacher là, qu'on pourrait voir là, pour nous autres dans notre culture, comment il prêchait ordinaire, disons. Il n'y avait peut-être pas ce qui était valorisé dans cette culture. Mais est-ce qu'on s'entend que Dieu l'a utilisé selon ses plans, selon comment lui l'avait fait? Absolument. Et regardez aussi au verset 24 et 25, il y a quelque chose d'important ici. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Dieu a distribué de façon égale sa grâce à tout le monde. Dieu a donné des dons de la grâce pour éviter les schismes, qu'il n'y ait pas de division, puis aussi que les membres prennent soin les uns des autres. Cette dépendance, elle est forcée par le Seigneur. On ne peut pas s'en tirer tout seul. On ne peut pas dire, moi je suis sur mon île puis je vis par moi-même. On a besoin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'importance du corps lui est donnée par son entièreté, par le fait que tous les membres forment quelque chose qui est unique. Là, j'ai dit ça dans le passé, puis je sais pas comment je me trompe mathématiquement, là, mais je vais le dire, là, même si c'est pas mathématique, c'est philosophique. Le tout est plus grand que la somme des parties. Tu me mets qu'on dit ça, là? En voulant dire que c'est pas juste 1 plus 1 plus 1. Le tout, là, il y a quelque chose d'unique à quand tu mets tout ça ensemble. C'est pas juste un là, puis un là. Tu mets tout ça ensemble, il y a une dynamique. Le tout est plus grand que la somme des parties. On apprend et on comprend la dynamique corporelle du corps de Christ. On comprend que c'est pas simplement un moyen qu'on doit rechercher. C'est pas juste l'idée d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais c'est un but à atteindre. Je vous donnerai encore, je vais vous montrer la voie par excellence. Christ est le but. Le but, c'est l'édification. Le but, c'est que Christ soit magnifié au milieu de nous autres. N'est-ce pas ce que ça dit à la fin de la belle prière de Paul dans Éphésiens 3? À celui qui peut faire, par la puissance, justement par son esprit, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça m'amène à la dernière dynamique. Non seulement il y a la dynamique spirituelle, il y a la dynamique corporelle, mais aussi il y a la dynamique, et là j'ai pris le mot organisationnel, mais l'Église c'est pas une organisation, c'est un organisme. Donc j'aurais pu dire la dynamique organique, mais j'ai pris organisationnel pour amener l'idée que Dieu organise les choses, ok? Regardez verset 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez au don des meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La dynamique organisationnelle ici, je crois que comment ces versets-là amènent les choses, c'est une conclusion appropriée pour ce que Paul a amené ici dans le chapitre 12, qui nous rappelle que Dieu est souverain sur les membres de son corps. Il est le roi, il est le chef, il est la tête de l'organisation. C'est pour ça que j'ai pris le mot organisation. C'est lui qui chapeaute, c'est lui qui dirige, il est la tête. Et ça, c'est important, non seulement à comprendre, mais on doit avoir la conviction que c'est vraiment le corps de Christ et qu'on est membres chacun pour notre part pour briser toutes ces notions de division qu'il pourrait y avoir. Puis là-dessus, quand ça dit au verset 27 que nous sommes membres chacun pour sa part, Ça montre que Dieu a choisi la part que chacun doit jouer. C'est Dieu qui a déterminé chacun pour sa part. Déterminé par le Dieu qui est le chef, qui est la tête. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, voyez-vous, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs et ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dieu a établi un ordre, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Il y a un ordre qui est établi dans sa sagesse, il y a une structure, d'où la folie et la rébellion du désordre de l'égocentrisme. Ah, moi je veux ça de même, moi je veux ça à ma façon. On n'a pas cette liberté-là. C'est pas nous qui décide qu'est-ce que nous on veut faire, c'est Dieu qui décide. Comprenez-vous? Ah, moi j'insiste, il faut que j'aille ce don-là. C'est égocentrique penser de même. On doit plutôt s'humilier et dire, Dieu, comment tu m'as équipé, comment tu veux m'utiliser? Et aussi, Dieu désigne le nombre des fonctions, des membres, des dons pour chacun. OK? Des apôtres, il y en a eu un nombre, sont passés. Les prophètes au sens strict, parce que le terme prophète, c'est un terme riche qui est plus bon que juste prévenir, de dire l'avenir. Puis il y a un sens très néo-testamentaire, ceux qui ont reçu les révélations qui sont devenues les Écritures. Il y a un sens beaucoup plus large qui est dans le sens de celui qui proclame la parole. On dit un tempérament de prophète, il va dire, rappelez-vous, on a vu ça la semaine passée dans Romains 12. Mais l'idée ici, c'est que tout ça, au bout du compte, excusez, j'ai perdu mon point ici. Dieu a désigné le nombre des membres pour chaque don. Et c'est lui aussi qui va en déterminer où est-ce que chacun est utilisé, comment lui il veut. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de questions, versets 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous, ok? Une série de questions qu'on appelle des questions, pas des questions sans réponse, mais c'est des questions qui demandent tous la même réponse. C'est pas parce que Paul se demandait, c'est une question rhétorique, c'est pour amener, susciter la réflexion. Puis quand il pose ces questions-là, toutes les réponses demandent, les questions, pardon, demandent la réponse non. Est-ce que tout le monde sont apôtres? Non. Est-ce que tout le monde sont prophètes? Non. Ok? Donc, Paul va amener les lecteurs ici, les Corinthiens, à avouer qu'ils ne peuvent pas insister pour avoir tel ou tel don, puis dire, ben là, moi, je veux que ça soit de même. Puis insister que tel ou tel don soit normatif. Par exemple, la plénitude du Saint-Esprit, ça fait partie aussi de la conviction pour laquelle, je crois, on ne peut pas dire, il faut absolument, si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que tu ailles ce don-là, comme étant un sceau de ça. Non! Selon quand on comprend ça correctement, on ne peut pas dire ça, parce que ce n'est pas nous qui décident, on ne peut pas insister. C'est qui est le chef de l'Église? C'est qui donne les dons? C'est clair. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui organise tout selon son autorité, selon sa sagesse, selon sa souveraineté. Fait que si on n'est pas content, le comité des plaintes est auprès de lui, puis je conseille de ne pas y aller. Vous pouvez y aller, là! Mais quand on se plaint à Dieu, souvent on en revient, puis on dit « Ouais, je pense que je chialais pour rien. » Maintenant, voici ma conclusion. Je pense que tous, ce matin, on est d'accord, on a de la matière à réflexion, du matériel. On peut revenir sur ça. Pour réfléchir sur la signification, l'implication et le but d'être membre d'une église locale comme ici. Puis pour revenir aux questions, j'ai dit que j'allais y revenir. Les questions au départ. La tolérance des différences s'arrête là où Dieu met la ligne. C'est pas nous qui va le dire, c'est Dieu qui le dit. Par exemple, à la lumière de la dynamique spirituelle, ça doit être dans le but d'édifier. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'édification commune. Ça doit être christocentrique, ecclésiocentrique et non pas égocentrique. Ça, c'est une première ligne. La dynamique corporelle nous rappelle que la définition de l'Église est une interdépendance mutuelle, dans le but de révéler quelque chose, pas par rapport à nous, mais par rapport à Christ. Quand tout ça, ça fonctionne ensemble, que cette interdépendance, nous révélons qui Dieu est. Nous sommes son corps et on révèle par la sagesse infiniment variée de Dieu, à travers toute cette dynamique-là, on déclare quelque chose au sujet de notre Dieu. Donc ça, c'est ce qui nous définit. C'est pas nous-mêmes, ah, moi je suis de Paul, moi je suis de, ok, moi je suis baptiste, moi je suis réformé, moi je suis pentecôtiste. J'espère que dans votre cœur, vous dites de mort que vous êtes un chrétien. Mon appartenance qui me définit, c'est Christ. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui seul. Maintenant, la dernière dynamique nous aide aussi à répondre aux questions du début. La dynamique organisationnelle nous enseigne que cette identité christique se manifeste par un agencement harmonieux. Dieu a mis premièrement là, puis un autre là, puis Dieu fait tout ça, là, puis ça fait une mosaïque, puis ça dit que tout l'assemblage, là, bien quoi, je vais vous le relire pour ne pas dire n'importe comment, mais c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ah, mes amis, je vous le conseille, c'est disponible sur Internet. On a, Christina, je sais pas si on a deux DVD, mais hier, je l'avais déjà écouté, mais j'ai réécouté hier The Potter. Ça dure 50 minutes à peu près. Si vous n'avez pas écouté, c'est RBC Ministries qui font ça. Puis c'est un potier, le potier, c'est en anglais, je pense pas que c'est sous-titré, c'est un ministère américain en tout cas. Si vous comprenez pas l'anglais, ça va être un petit peu dur à comprendre, mais le gars parle très lentement, c'est pas difficile à comprendre. C'est un potier qui simplement explique son métier, mais il est chrétien, puis les parallèles avec la vie chrétienne, c'est hallucinant. Puis je pense que c'était dans la direction de Dieu que je puisse lire ça hier, parce que c'est ça. Tu sais, nous autres, on aime ça avoir les choses à notre façon, puis on n'aime pas ça quand les autres sont dans notre chemin de ce qu'on veut faire, mais quand on se rappelle, Dieu est le potier, puis sais-tu quoi? Il forme le vase comme il veut. Puis il fait les choses à sa façon. Est-ce que l'argile peut dire, « Hey, comment ça que tu m'as fait de même? » Puis, mais je vous dis, là, je vous encourage à l'écouter parce que le nombre d'applications spirituelles, c'est incroyable. C'est comme si on prend un passage comme... le potier, c'est Jérémie quoi, donc? Jérémie 30... En tout cas, aller dans la maison du potier, là, c'est dans Jérémie. Puis, mais c'est comme si on prend ce passage-là, puis on l'amène comme dans le quotidien de quelqu'un, puis tout ça. En tout cas, je vous dis, moi, ça m'a beaucoup béni. Et ça me rappelle justement ces vérités-là. Dieu est le potier. Dieu est lui, c'est lui qui bâtit, lui qui décide. Il y a quelque chose de beau, de sécurisant là-dedans. Mais à la lumière de tout ça, ce qu'on a vu aujourd'hui, puis à la lumière de cette grande vérité du potier, laissez-moi vous dire quelque chose pour être bien clair. La vie chrétienne, l'Église, ne tourne pas autour de toi. Je ne veux pas être rude en disant ça, c'est une vérité. La vie, c'est pas « me, myself and I » comme le monde voudrait nous dire. Mais je voudrais surtout souligner, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Quelqu'un va dire hey, « non, comment ça tu dis ça là? » T'es donc même pas fin quand tu dis ça. Non, c'est bon de voir ça. Si la vie ne tourne pas autour de moi, j'ai la liberté d'être ce que Dieu veut que je sois. J'ai la liberté de rentrer dans le travail que Dieu est en train de faire. Mais si j'insiste, puis j'aime pas ça, qu'est-ce que Dieu fait? Je me prive de la grâce de Dieu. Je me prive de ce que Lui veut faire. Fait que là, on se rend compte, wow! C'est salutaire de comprendre que la vie ne tourne pas autour de moi, que l'Église n'est pas par rapport à moi, que c'est bon que ça soit de même. Et là-dessus, je vais amener un appel pour ceux qui n'ont pas encore le salut qui est en Jésus-Christ. Si ta vie est centrée sur toi, que tu es le centre de ta vie, que tu es sur le trône de ta vie, tu as besoin d'être détrôné. Puis je veux pas être rude encore là en disant ça, mais c'est quoi le salut? Le salut, c'est reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est dire, c'est pour moi qui peux me sauver moi-même. Je suis incapable parce que je suis pécheur. Et il y a un seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas juste un ticket pour le ciel, c'est demander à Dieu de venir dans notre vie pour la diriger. Et d'ailleurs, le monsieur, j'ai tellement trouvé bon dans le vidéo hier sur le potier, là. il donne son témoignage de salut, puis il dit qu'il a été sauvé, lui, à la roue, là, mais justement, demain, puis il dit, gars, Seigneur, je te donne ma vie. Puis je te fais confiance, je m'abandonne à toi. C'est ça, être sauvé, et c'est libérateur. Quand, enfin, on donne notre vie au Seigneur pour arrêter de se sauver soi-même, arrêter d'essayer par nous-mêmes, c'est libérateur, parce que là, la grâce de Dieu, qui est toujours suffisante, qui sauve parfaitement, elle est là, elle est parfaite, elle est suffisante. Et si vous êtes un enfant de Dieu ici, vous savez, il y a des parallèles beaucoup entre le salut et la sanctification. Le fait de ne pas être le centre de nos vies, le centre de l'Église, mais que Jésus soit, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut comprendre dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si je vis encore dans cette chair, c'est plus moi qui vis. Ça n'a plus rapport avec moi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Puissions-nous ce matin embrasser cette délivrance du fait de faire de Christ le centre de nos vies. Dieu le Père est la destination finale. Le Fils est le moyen par lequel on y va. Et le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en ce moment, c'est lui qui est la puissance pour y aller. C'est lui qui nous pousse dans ce sens-là. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Seigneur, on ne s'est pas approché d'un texte qui vient d'un homme. Mais on s'est approché du Dieu vivant qui avait ce matin pour chacun ici un message. Tu es souverain, Seigneur, tu parles personnellement. Tu parles personnellement à ceux qui ne connaissent pas encore pour les conduire à ton Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est celui qui les convainc de leurs besoins, qui les convainc du fait que Christ est le seul qui sauve et qu'ils ont à être prêts à la rencontre de leur Dieu. Seigneur, fais cette œuvre dans ceux qui ne te connaissent pas encore. Sauve aujourd'hui, Seigneur, qu'ils voient la simplicité de la foi en Christ. Qu'ils arrêtent d'essayer de se débattre, mais qu'ils rendent les armes et qu'ils se donnent à toi. Oh, et Seigneur, pour nous, tes enfants, brise cet égocentrisme qui s'attache tellement facilement à chacun de nos cœurs. On est foncièrement égocentrique. Mais Seigneur, tu es venu pour détruire ça. Tu es venu pour faire de quoi de tellement mieux, de tellement plus beau, valeureux et édifiant. Ah, Seigneur, que tu sois en tout point, non seulement le centre de nos vies, mais la joie de nos vies, notre paix, l'amour qui nous anime. Et Seigneur, merci que tu es venu et c'est ce que tu es venu accomplir. Tu étais un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Tu es venu et tu as accepté de souffrir pour le bien et le péché des autres. Et tu nous as équipés, nous ton corps. Tu nous as équipés par les dons de la grâce de ton esprit pour qu'on puisse continuer cette œuvre en tant que ton corps. Seigneur, on t'invoque que tu puisses le continuer à ta gloire et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.